pas le choix ici. Non, mais d'habitude, c'est un petit peu plus bas. J'ai comme l'impression de me cacher. Non. Ouais, je pense que j'ai besoin de. Mais c'est correct. Bon, bien, bon. Bon, hein? Non, non, on va être correct. Bien, bonjour. Je suis content d'être ici encore ce matin. En fait, je continue la série de 2 Corinthiens. Puis la dernière fois, j'avais fait un message sur les règles d'un engagement. Et on parlait de l'engagement quand on veut donner dans l'œuvre, quand on donne. Et ça, c'est comme une... encore sur le sujet de l'argent. Et vous savez, l'argent, c'est sensible comme sujet. Puis, j'ai donné ces deux messages-là dans l'assemblée, mais je le donne ici, mais je l'ai donné aussi dans d'autres assemblées. Puis, après le message que vous avez entendu la dernière fois, j'ai retourné donner la suite dans cette assemblée-là, dans cette église-là. Et il y a une sœur qui est venue me voir, qui voulait me demander pardon parce qu'elle avait comme été piquée un peu. Tu sais, quand on parle d'argent, ça, des fois, ça vient nous piquer un petit peu, ça vient nous chatouiller, c'est délicat. Puis, je ne sais pas quel aspect, qu'est-ce que j'avais dit exactement, mais elle avait comme senti qu'elle avait pas une belle attitude envers moi. Moi, je ne l'avais pas vraiment ressenti, mais elle est venue me demander pardon. Je dis, écoute, je te pardonne, tu sais, j'ai aucun problème. Mais ça m'a juste rappelé que c'est des sujets sensibles. Alors, je veux juste vous le dire. Ça se peut que je dise quelque chose que vous dites, bien là, bien, on peut juste parler. Moi, je crois que la Bible dit ce que je vais vous partager, mais des fois, il peut y avoir des nuances à faire que je n'ai pas fait. Ou... Donc, je veux juste vous le dire en entrée de jeu. Je comprends que c'est délicat quand on parle d'argent. C'est plus facile pour moi de parler d'argent ailleurs que dans ma propre église aussi, par exemple. Mais parce que je vous connais moins un peu que les gens de l'Assemblée. Donc, on parle encore d'argent ce matin. On va lire les versets qu'on va regarder ce matin. 2 Corinthiens 9, à partir du verset 6. Sachez-le. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Donc, on se rappelle, le secours de cette assistance, c'est que les chrétiens voulaient assister des gens plus pauvres à Jérusalem, donc il y avait cette collecte qui avait été faite pour eux. Verset 13, en considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Donc, la dernière fois, je ne veux pas trop me répéter, mais on a vu que Paul a encouragé les Corinthiens à persévérer, terminer la collecte. Hein, ils ont commencé une collecte, ils avaient comme arrêté, puis ils les encouragent à la terminer pour les chrétiens de l'Église à Jérusalem. Et il leur a rappelé des règles, j'avais appelé ça les règles d'un engagement. Il y a comme des règles, on s'engage à donner, puis c'est ce qu'on avait vu. Donc, leur engagement, ça devait être volontaire. On n'oblige jamais personne à donner, selon leurs moyens, et en faisant confiance à Dieu. Maintenant, il leur parle des avantages de donner. Et mon titre que je veux donner au message, c'est, il y a beaucoup de données, hein, mais donner, c'est aussi recevoir. Alors, quand on donne, on reçoit. Mais on va regarder exactement ce que ça veut dire. Quand on y pense, on comprend bien que donner, c'est le contraire de recevoir. C'est quand tu donnes, tu donnes. Tu ne reçois pas, tu donnes. C'est plus des antonymes, c'est pas des synonymes, mais ça peut être des synonymes finalement, donner et recevoir. Ça peut être synonyme dans un sens. Mais il y a beaucoup de paradoxes aussi dans la Bible. Je dis que je donne, puis quand je donne, je reçois, ça a comme l'air d'un paradoxe. Mais regardez, puis Dieu, il est comme ça. Dieu s'amuse à travailler avec nous, avec des affaires qu'on... Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Explique-moi donc ça. C'est comme ça que Dieu travaille. Celui qui conservera sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra, à cause de Jésus, la retrouvera. Je la perds tout, je la retrouve. Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Donc, voyez-vous, il y a ces genres de paradoxes-là. Alors, ça ne nous surprend pas quand on lit ça dans Proverbe 11, 24. « Tel qui donne libéralement devient plus riche. » OK, « Tel qui donne libéralement, tu deviens plus riche. » Et « Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Mais encore une fois, ça a l'air d'être contradictoire. Mais on va voir comment on peut regarder ces versets-là. Bien, pas le Proverbe nécessairement, mais Corinthiens ce matin. Donc, donner et recevoir pour les enfants de Dieu, quand on regarde les Écritures, ça peut être synonyme. Ça peut être quelque chose qui est la même chose finalement. Je donne, mais je reçois aussi. Et quand on pense à l'image de la semence et de la récolte que Paul utilise, ça nous aide à comprendre que quand on jette un grain par terre, c'est pas perdu à jamais. Je ne l'ai pas perdu, puis c'est fini. On le sait que le grain va éventuellement donner quelque chose, il va pousser, il va avoir un retour. Donc, avec une perspective humaine, celui qui donne, que ce soit son temps, que ce soit ses biens, même de l'argent, bien, avec une perspective humaine, on va dire, il les perd, ses biens. Il perd son argent, il l'a donné, mais avec une perspective biblique, avec la perspective de Dieu, celui qui donne, soit ses biens, bien, il les augmente. Puis on va voir ce que ça veut dire exactement. Je ne veux pas vous penser que je dis, hey, Martin nous dit, on donne nos meubles, puis on va avoir plus de meubles. Ce n'est pas exactement ça que je veux dire. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Délicat quand même comme sujet. C'est pour ça que ça demande de bien comprendre le texte ici. J'ai trois ou quatre points, je ne me souviens pas par cœur, je pense que c'est quatre points ce matin. Et le premier point que je veux qu'on parle ensemble, nous recevons en proportion de ce que nous donnons. Okay, nous recevons en proportion de ce que nous donnons. Le verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Vous savez, on peut parler de dons spirituels, on peut spiritualiser tout notre texte, puis c'est vrai qu'on peut donner, puis Dieu nous enrichit spirituellement, mais quand on lit le contexte, on parle vraiment de biens matériels aussi. Là, ça n'exclut pas les biens matériels. Donc, Dieu promet une moisson qui correspond à ce que l'on sème. Si on sème peu, bien, on va récolter peu, puis si on sème beaucoup, on va récolter beaucoup. Il y a comme une loi dans ça. Et ce n'est pas un nouveau concept pour Paul, parce que dans Luc 6, 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Et je vais mettre l'emphase sur l'action de donner dans ce premier point. Le verset dit qu'on peut donner peu et qu'on peut donner abondamment. On peut donner peu ou abondamment. Puis c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes moyens financiers. Puis selon l'étape de notre vie, il y a des étapes où on est plus, on est moins en moyen. C'est-à-dire quand on a des jeunes enfants, puis une voiture, une deuxième voiture, ou peu importe, bien, à un moment donné, des fois, on arrive serré, ça devient difficile. Et à un moment donné, plus tard dans la vie, on peut arriver à des moments où est-ce qu'on a moins de difficultés financièrement. Donc, on n'a pas tous les mêmes moyens financiers. Mais je pense que peu et abondamment dans ce verset ne parle pas de quantité, mais parle plutôt de proportion. Vous voyez la différence? C'est pas on ne parle pas de quantité, mais de proportion. Parce que la parole déjà ailleurs démontre qu'on peut être pauvre et donner abondamment. Vous vous souvenez qui a donné pas beaucoup, mais qui a donné tout ce qu'elle avait? La veuve, qui a donné combien? 2 sous, je pense. Ça, hein, 2 sous. Donc, l'idée de peu et abondamment, je ne crois pas que c'est question de quantité, mais plus de proportion. Je peux être très pauvre, puis hey, j'ai donné abondamment, puis j'ai donné de mon nécessaire. Et je peux être riche, puis donner un gros montant, mais j'ai donné peu, parce que j'ai donné de mon superflu. Donc, Dieu ne regarde pas à la quantité, mais à la proportion. Donc, c'est important de se rappeler de ça. Dans un commentaire, je vous lis Bryant qui a dit, un dénommé Bryant qui a dit, « La mesure de notre don est toujours le prix que nous le payons en termes de sacrifice. Hein, » c'est ça la mesure de notre don. Toujours le prix que nous le payons en termes de du sacrifice. Maintenant, si je vous dis, à qui vous pensez si je vous dis le mot « riche » Si je vous dis « riche », pensez-vous à vous-même? Moi, si je dis « riche », je ne pense pas à moi. Peut-être quelqu'un ici dit « moi, je pense à moi, je suis riche ». Souvent, on va penser à quelqu'un dans sa villa avec des serveurs, des servantes, puis la grosse piscine. Même quelqu'un qui est riche va penser à quelqu'un de plus riche que lui. C'est un peu comme ça marche. On en veut toujours plus. Mais saviez-vous que la majorité des personnes sur la Terre pensent à nous quand ils entendent le mot « riche » Parce qu'on a de l'eau potable à notre portée. On peut aller, bon, ici, apparemment, qui n'est pas potable, hein, mais j'ai vu ça en bas, là, de ne pas boire l'eau. Mais dans nos maisons, on tourne, puis on a de l'eau potable à notre portée. On a souvent nos frigidaires pleins, puis moi, je trouve ça dur, la gestion des restants, puis on finit toujours par jeter la nourriture parce que là, on ne savait pas que ça traînait dans le fond du frigidaire. On a des frigidaires remplis de nourriture. On a des garde-robes pleins de vêtements. Puis des fois, nous, on s'en est tellement fait donner qu'on redonne, parce que je dis, je pourrais habiller 30 enfants avec tout ce que je me fais donner, j'en ai juste 5, donc on redonne. On en a beaucoup. On a un toit pour s'abriter. Et ce matin, j'étais content, j'ai sorti mon chien, puis il faisait frette. Puis là, j'avais hâte de retourner en dedans à me réchauffer. Mais on a un toit avec du chauffage pour s'abriter, pour se réchauffer. On a accès à un service de santé. Bon, même si on entend des fois des critiques, peu importe, mais on a quand même accès à un service de santé. On a plusieurs moyens de transport. Ma fille, elle prend le bus, j'ai pas besoin de tout le temps faire les transports. On a des taxis, des bus, des voitures. Puis moi, une de mes filles s'est acheté une voiture. Je dis, on sait plus où les mettre, les autos, j'ai pas de place. Parce que moi, j'ai ma voiture, Marie-Pierre a la sienne. On avait une autre pour Emma, parce que... Puis là, Maïka s'en est acheté une, elle est rendue à 4 chars dans le cours. On ne sait plus où les mettre. Tous ceux qui ont accès à ça, parce qu'on pourrait rajouter des avantages, mais tous ceux qui ont accès à tout ce que je viens de vous dire, on est riche à côté de milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas ça. Puis il y en a plusieurs personnes qui n'ont pas ça, là. J'ai visité le Cameroun il y a 2 ans, puis ça m'a fait un choc. De voir que les gens, ils sont loin de ce qu'on a. Pourtant, j'ai vu un sourire plus grand que ce que je vois en général, sur le visage. Alors, on se pense peut-être pauvre si on se compare à un millionnaire dans sa villa, mais en réalité, quand on prend le temps de réfléchir puis regarder à ce qu'on a, on est riche à comparer à la majorité des autres dans le monde. Il y a deux professeurs d'économie, Steve et Brian, qui considèrent que notre niveau de vie qui est commun pour nous est extrêmement peu commun dans l'histoire humaine. Puis regardez, je vais vous lire des citations, j'aime ça d'habitude les avoir, mais là, je ne l'ai pas poursuivre, mais j'ai essayé de bien la lire. À aucun moment de l'histoire, il n'y a eu de plus grande disparité économique dans le monde qu'à présent. Et là, bon, il continue à parler, puis il conclut en parlant des gens en Amérique, donc en parlant de nous. Il dit, à tout point de vue, nous sommes les personnes les plus riches qui aient jamais marché sur la Terre. Ça, c'est nous. Et on a grandi toute notre vie avec cette richesse-là, tout en ne réalisant pas qu'on était riche. Parce que, je veux dire, on grandit là-dedans, puis on a tout. Puis on a des bébelles, puis on en rajette. Puis on a, puis moi, j'ai fait des collections de toutes sortes d'affaires quand j'étais petit, des schtroumpfs, des cartes de hockey, des macarons, puis j'avais toutes sortes de collections. On a plein de choses. Puis on vit dans ce monde-là, puis on a grandi dans un monde matérialiste qui surconsomme dans tous les domaines. Alors, en tant que chrétien, maintenant qu'on appartient au Seigneur, bien, on doit s'examiner. Il faut vraiment faire un examen de conscience, chacun, pour savoir à quel point ça nous a affectés, à quel point on a embarqué dans la vague de la société, puis d'autres mondes. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il faut être tout pauvre, puis tout jeté, puis tout donné. Puis c'est pas ça mon point. C'est est-ce que je suis tombé dans ce piège-là de surconsommation, de du matérialisme? Est-ce que je suis attaché à mes biens matériels? Ou est-ce que je les considère comme étant à Dieu, parce que maintenant que je suis son enfant, tout est à lui, puis tout ce qui est à moi, bien, ça appartient au Seigneur, puis je vais être généreux, puis je vais prêter, puis je vais donner, puis je vais... Je pense que c'est un bon moment quand on devient chrétien, puis à tout moment, de s'examiner pour voir si on tombe dans ce piège-là de la surconsommation, puis de posséder, puis de tout le temps vouloir plus. Et je ne suis pas contre de possession du tout. C'est le cœur. Il faut examiner notre cœur devant tout ce qu'on a. Je connais quelqu'un qui a beaucoup de moyens, qui a une belle maison, qui a une belle voiture, puis il fait des voyages, mais il est très, très, très généreux. Il donne, il est généreux avec ce que Dieu lui confie. J'ai une autre citation, je la trouve un peu longue, je ne sais pas si je peux aller. Je m'essaye, puis si jamais vous trouvez que c'est trop long, levez la main, je vais arrêter, OK? Parce que des fois, quand c'est trop long, là, mais je trouvais ça bien, ça c'est un pasteur. Les deux premiers, ce n'étaient pas des chrétiens, là. Il dit, nous professons que la différence entre le croyant et l'incroyant est aussi radicale qu'entre la lumière et les ténèbres. Tu sais, il y a vraiment une distinction entre les croyants, nous, enfants de Dieu, autant qu'entre la lumière et les ténèbres, presque aussi vaste qu'entre le ciel et l'enfer. Mais dans ses préoccupations visibles et pratiques, le cœur de l'enfant de Dieu est semblable à celui qui ne l'est pas. Autrement dit, on tombe un peu dans le moule des gens du monde, sans des fois s'en rendre compte. Donc, le cœur de l'enfant de Dieu est semblable au final à celui qui ne l'est pas. Nous affirmons de la bouche croire que les richesses ne sont que vanité, mais nous agissons comme si nous les aimions. Et le recherchions avec autant d'intensité que ceux qui font tout pour elles et qui en font leur Dieu. Nous disons ne pas avoir de cité permanente ici-bas, mais nous nous empressons d'orner nos demeures comme si nous n'en avions pas d'autres. Nous déclarons que nos vrais plaisirs sont plus riches et plus nobles que le luxe de cette vie présente, mais nous nous enflons et bourdonnons avec autant d'éclat que tout autre insecte humain éphémère à nos côtés. Quelle en est la conséquence? Avec sa sagesse, le monde croit notre conduite davantage que nos paroles. Autrement dit, on dit qu'on est différent, qu'on est enfant de Dieu, mais des fois, dans notre façon de vivre, de gérer ce que Dieu nous donne, on ressemble à tout le monde. Et les gens, bien, ils nous voient agir. Puis les gens, bien, c'est plus notre conduite qui a un impact sur eux que ce qu'on dit. Parce que même si je dis, non, moi, les richesses, c'est Jésus, ma richesse. Puis que dans ma conduite, il me voit avoir des richesses, puis qu'on me confie dans mes richesses, puis faire tout pour avoir ce que l'autre a eu, puis l'autre voisin a eu ça, puis ben, ils vont croire plus notre conduite que nos paroles. Et je veux dire que je ne crois pas que le matériel est mauvais, mais il peut devenir si on s'attache à notre cœur. Puis, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps mettre devant le Seigneur. Parce que c'est pas comme si, ah, ben c'est réglé, Seigneur, moi, les richesses, j'ai plus de problème avec ça, le matériel, j'ai plus de... Il faut toujours revenir avec ça devant le Seigneur et dire, Seigneur, je veux m'attacher aux choses qui sont en haut, puis aide-moi à le faire. Donc, selon Paul, donner, ce n'est pas une perte, mais un investissement. Parce que Dieu redonne en proportion de ce que nous donnons et même au-delà. Un commentaire biblique, je vous note, Brian, je pense que je l'ai déjà mentionné, mais c'est une autre citation. Celui qui donne ne jette pas, il sème. Le don qui est offert du cœur est comme un grain de semence qui possède un grand potentiel de reproduction et qui rapporte plus tard au semeur une riche récolte. Et ça ne veut pas dire que si je donne 20$, que je vais en recevoir 40. Okay, c'est pas ça que ça veut dire. On va le voir en plus en continuant. Si je donne 1000, Dieu me redonne 2000. Si je vous disais ça ce matin, mais ça frôle. En fait, on est plein dedans l'évangile de prospérité. Hein, donnez, puis vous allez avoir un retour. C'est pas exactement ça, puis on va le voir au prochain point. Deuxième point. J'ai intitulé « Nous recevons en fonction de notre attitude et de nos motifs. » Nous recevons en fonction de notre attitude et nos motifs. Je relis les deux versets, 7 à 9, trois versets. « Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Et il y a un petit mot important dans le verset 8. « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Dieu, ça ne dit pas, « Écoute, si tu donnes selon ton cœur, sans tristesse ni contrainte, Dieu va te combler au-delà ou de toutes ces... » Dieu peut. Puis c'est important de comprendre cette nuance-là. Ça ne dit pas que Dieu va automatiquement redonner le double. Ce n'est pas la quantité qu'on donne, c'est premièrement l'attitude dans laquelle on le fait. Puis ça, c'est important aussi de se rappeler ça. Un petit montant donné avec joie vaut plus qu'un gros montant donné avec tristesse. Pour un fermier qui sème, l'attitude ne fait pas aucune différence en passant, parce que si le fermier sème, qu'il soit triste dans le matin et qu'il sème ou joyeux, ça ne fait pas de différence. Mais pour le chrétien, ça fait toute la différence. Et on retrouve encore l'idée de donner ce que chacun a résolu. Dans le dernier message, on avait parlé ce que chacun a résolu dans son cœur. C'est personnel à chacun. Qu'est-ce que je, dans mon cœur, j'ai à cœur, je veux donner tel montant ou telle chose ou tel ou mon temps cette semaine-là, cette fin de semaine-là, je veux donner ça. Donc, c'est chacun selon son cœur. C'est pas une offrande compulsive, c'est pas une offrande non réfléchie, un coup de tête. Je parlais avec un croyant il n'y a pas longtemps, puis lui, à un moment donné, il a eu un coup de tête, là, il voulait donner plus que ce qu'il gagnait. Mais là, je me suis assis avec, je disais, écoute, tu peux bien faire si tu as vraiment l'impression que Dieu, mais tu peux pas, à un moment donné, donner tout le temps plus que ce que tu gagnes. Parce que, tu sais, tu es en train de te déshabiller pour habiller quelqu'un, puis il va falloir que quelqu'un vienne t'habiller. Ça fonctionne pas. Donc, c'est pas irréfléchi. Il doit y avoir une réflexion, une analyse, un engagement dans tout geste de libéralité. Et la joie doit accompagner ce geste. Il faut le donner. Avec joie. Puis le mot grec il est vraiment intéressant. Le mot grec ici pour joie, c'est le mot hilaron, d'où on reconnaît notre mot hilarant. J'ai trouvé ça intéressant comme racine, comme mot. Donc, on doit avoir cette joie-là. Donc, le verset est clair sur le genre d'attitude qui est convenable d'avoir quand nous donnons. Volontaire, sans tristesse, mais sans contrainte aussi. Donc, sans retenue et avec joie. Et le verset 8 nous dit que Dieu peut nous combler. Non, qu'il va le faire automatiquement. Dieu peut nous combler. Ça veut dire qu'il a la puissance de le faire. Si je donne dans le but que Dieu me bénisse en retour, je ne donne pas avec joie. C'est pas ça, donner avec joie. Puis dans l'Évangile de prospérité, c'est ce qu'on dit. Donnez, puis vous allez recevoir en retour. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que donner dans le but que Dieu me redonne, c'est pas donner avec joie, c'est donner avec un motif égoïste. C'est comme si mon but, c'était de me donner à moi-même. Si tu donnes pour avoir le double, c'est parce que tu veux te donner à toi-même. On est en dehors complètement de ce que Dieu nous demande de faire. C'est comme si je faisais un placement pour moi-même. Hey, ça va être payant. Je place 1000, puis je sais que je vais en avoir un autre 1000. Mais c'est pas ça, donner avec joie. Jésus s'est fait pauvre pour nous. Pour nous enrichir. Il ne s'est pas fait pauvre pour s'enrichir lui. Bien sûr, ça lui a donné la gloire, mais il l'a fait pour nous enrichir. Puis est-ce qu'on a été enrichi en Christ? Incroyable quand on regarde tout ce qu'on a en Jésus. Alors, donner avec joie, c'est donner de manière désintéressée, sans contrainte, sans retenue. Si je donne puis que j'attends un retour sur investissement, je ne donne pas sans retenue. Je donne, mais avec des attentes. Une attente de rendement. Mais Dieu n'est pas un portefeuille financier. Donc, on ne peut pas donner comme ça. Donc, tout l'Évangile de prospérité, c'est anti-biblique. Ce n'est pas selon ce que la Bible nous enseigne de faire. Notre première motivation doit être la joie de donner. La joie de pourvoir aux besoins des autres. Parce que peut-être moi, j'ai été à un moment donné dans le besoin et j'ai reçu. Puis là, bien, c'est à mon tour de bénir quelqu'un d'autre puis de redonner. Il y a vraiment un cercle et un cycle qui se passe. Puis si je veux pas rentrer dans ce cycle-là, je vais juste vouloir garder ou donner dans le but d'en avoir plus, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, la joie de donner, pourvoir aux besoins des saints. Et si j'ai vraiment ce fardeau dans mon cœur et que j'hésite parce que je suis inquiet avec mes finances, mais que j'ai vraiment l'impression que Dieu m'a mis à cœur d'aider telle personne, bien, c'est là que Dieu me dit bien, qu'il peut me combler de toutes ses grâces. Donner en attendant un retour, c'est pas mettre Dieu à l'épreuve, c'est mettre Dieu au pied du mur. T'sais, c'est comme si tu dis, gars, moi je donne, mais il faut que ça retourne, il faut que ça revienne. On ne donne pas pour recevoir. En retour, on donne en faisant confiance que Dieu va s'occuper de nous quand ça sera le temps de s'occuper de nous. Puis l'exemple que moi j'ai vécu, puis je suis sûr que vous pourriez toutes raconter des histoires. Mais il y a plusieurs années, Marie-Pierre, écoutez, elle avait vraiment à cœur une famille, puis elle voulait donner quelque chose, un montant d'argent pour les aider. Puis là, tu sais, je veux dire, elle est venue me consulter, parce que c'était pas nécessairement 20$, c'est quand même un montant qu'elle a dit, je vais vérifier avec Martin. Mais écoute, j'ai dit, Marie, j'ai dit, si tu as vraiment, vraiment un fardeau à cœur, puis que tu pries, puis que ça revient, bien, on va obéir. Puis tu sais, c'était pas dans nécessairement une époque où est-ce qu'on était, on avait beaucoup en surplus, mais j'ai dit, Dieu va pourvoir. Puis j'ai pas dit on va donner, puis inquiète-toi pas, puis ça va revenir de l'autre bord. Tu sais, c'est pas ça pendant mon attitude. J'ai dit on va donner, mais on va faire confiance au Seigneur qu'on manquera de rien. Pas qu'il va nous redonner, mais qu'on manquera de rien. Parce que souvent, on a reçu des fois des repas. Ça, c'était avant d'être dans le ministère en passant, là. Mais tu sais, souvent, on a reçu des repas, on a reçu du linge beaucoup. Donc. Dieu va... Moi, j'ai jamais manqué de rien en passant depuis toute ma vie. J'ai jamais, jamais, jamais manqué de rien. J'ai jamais été riche, là, mais j'ai jamais manqué de rien. Alors, je dis, regarde, Seigneur va s'occuper de nous. Et on a fait confiance au Seigneur, puis on a vraiment fait ce don sans contrainte, ni tristesse, puis on avait vraiment la joie de le faire. Parce qu'on savait qu'il y avait un besoin qui était là. Et jamais j'ai eu cette pensée que Dieu va nous bénir, puis il va nous redonner. Non, j'avais la pensée que Dieu va s'occuper de nous. Et ce qui est arrivé, c'est que l'année d'après, on a reçu, à un moment donné, un don du même montant exact, pile. Et puis là, j'ai fait comme, c'est comme si, on a donné, c'est comme si là, le Seigneur, il voyait qu'on était dans le besoin, puis il nous a retourné. Puis dans la même année, on a reçu encore une fois ce don-là, le même montant encore, deux fois. Et là, ça a l'air bizarre, c'est comme je suis en train de vous dire, hey, voyez-vous, vous donnez, vous recevez en double, c'est pas ça du tout. Mais c'est ce qui nous est arrivé, puis on a béni le Seigneur. On a vraiment béni le Seigneur quand c'est arrivé comme ça. Puis jamais on a eu cette pensée-là qu'il va nous redonner en double. Mais Dieu peut. Et il va s'occuper de nous. Mais Dieu peut nous retourner quelque chose qu'on a donné s'il veut. C'est lui qui décide, mais ce n'est pas une obligation qui est obligée de nous bénir parce que moi j'ai fait ça. Non, Dieu peut. Puis Dieu, je le sais, qu'il s'occupe de ses enfants. Donc, c'est une histoire que ça m'a toujours resté ici pour démontrer. Ça me disait, regarde, même si c'est peut-être pas le meilleur temps, il y a vraiment un besoin, puis Dieu te met à cœur de le faire, puis je pense vraiment que c'est Dieu. Ben obéis, puis Dieu, moi, je vais m'occuper de toi, Martin. C'est ça la leçon. C'est vraiment ça la leçon que j'en ai tirée. Ça m'a vraiment touché en passant quand ça nous est arrivé. Dieu a pris soin de nous. Alors, j'ai glorifié le Seigneur avec ça. Et je le répète, l'enseignement ici, c'est pas donner puis vous allez recevoir le double. C'est pas du tout ça que je veux vous dire. En fait, je vous garantis le contraire. Ça, je peux vous le garantir. Si vous donnez parce que vous pensez avoir le double, là, je vous garantis le contraire. C'est pas l'attitude dans laquelle Dieu veut qu'on donne. Vous allez être déçus. Ces versets n'enseignent pas une garantie de prospérité matérielle. On n'est pas dans l'évangile de prospérité. Mais c'est quand même un principe. Il enseigne que Dieu est suffisant. Si on donne sans tristesse, si on donne sans contrainte, si on ne donne pas avec des attentes qui ne sont pas bibliques, bien Dieu, il peut. S'il veut bien, il peut nous combler. Puis il nous comble déjà de la grâce. Il nous comble spirituellement. Mais il peut aussi nous redonner financièrement quand on sera dans les moments plus difficiles, par l'entremise d'un autre frère, d'une autre sœur. Pour qu'on puisse être encore en abondance. C'est ça qu'il dit, hein? Toute grâce, pour qu'on soit encore en abondance pour toute bonne œuvre. Qu'est-ce qu'on fait quand on revient en abondance? On redonne. Donc, voyez-vous, c'est comme un cercle qui finit jamais. Donc, on reçoit en proportion de ce qu'on donne. On reçoit en fonction de notre attitude, nos motifs. On reçoit, le troisième point, verset 10-11, dans le but de redonner. Pourquoi Dieu nous donne? Pour nous enrichir? Pour qu'on aille se la péter sur la plaine? Non. Il nous donne, s'il nous donne en surplus, pour qu'on redonne. Regardez verset 9, 10 à 11. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité, donc pour donner aussi, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donc ici, Paul va citer Ésaïe 55, verset 10, pour exprimer l'idée que donner n'appauvrit personne parce que c'est Dieu, au final, qui fournit la semence. Donner, ça n'appauvrit pas, c'est Dieu qui nous comble de ses grâces. Et bien sûr, comme je l'ai dit tantôt, ces grâces ne se limitent pas à l'argent ou à des biens matériels. La grâce de Dieu nous enrichit moralement, nous enrichit spirituellement, nous fait grandir dans notre caractère chrétien. On peut aussi penser à toute bénédiction spirituelle qu'on a dans les cieux célestes en Christ. On peut penser au trésor qu'on s'amasse dans le ciel. Donc, c'est tout spirituel. Mais je crois vraiment que sur un contexte ici, il y a aussi, dans les versets 11 à 13, ça nous parle aussi de biens matériels, étant enrichis pour une entière libéralité. Le verset 12 nous dit que c'est dons pourvoient aux besoins des saints. Si je pourvois aux besoins des saints, donc c'est matériel. Le verset 13 nous dit que ceux qui reçoivent glorifient Dieu de la libéralité des dons qu'ils ont reçus. Alors, quel est le but de Dieu en nous donnant ou en nous redonnant des richesses matérielles? Bien, il le fait pas dans le but de satisfaire nos propres désirs. Il ne le fait pas pour nous enrichir, mais dans le but d'avoir encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Et si Dieu nous bénit puis il voit qu'on est, avare puis qu'on garde, bien, ça se peut que Dieu arrête de nous bénir. Parce que s'il me confie des petites choses puis je ne suis pas fidèle dans les petites choses, il ne me confiera pas des grandes. Puis si Dieu confie des petites choses puis la personne, bien, Dieu va en donner encore pour qu'elles soient encore plus généreuses. Tu sais. Et bien sûr, Dieu nous permet de jouir de ce qu'il nous donne. Pas en train de dire qu'il faut jamais être satisfait puis jouir de ce que Dieu nous donne, mais il veut surtout qu'on soit riche en bonne œuvre, en redonnant aux autres. Un commentateur qui dit « La surabondance des uns doit servir à soulager les besoins des autres. Toute tentative pour contourner cette loi se traduit par la honte et la perte. Les biens sont comme la manne. » Vous vous rappelez la manne? Dans le désert, il ne supporte pas d'être conservé. On ne pouvait pas en ramasser pour 2-3 jours, parce qu'elle moisissait. On en avait trop, mais c'est pour aller donner à ceux qui n'avaient peut-être pas ramassé assez. Donc. Et dans William MacDonald, il y a son commentaire, je lis un autre. « Dieu veut que tout homme ait sa part des bonnes choses dans la vie. Certains en recueillent plus, d'autres moins. » Ceux qui ont davantage devraient partager avec ceux qui en ont moins. Dieu permet la répartition inégale des richesses, non pour que le riche en tire une jouissance égoïste, mais pour qu'il les partage avec le pauvre. Et je crois vraiment que c'est ça l'idée de ce que Paul est en train de dire avec l'idée des richesses, de semer, on va récolter, on sème beaucoup, on va récolter plus. Mais quand Dieu nous bénit, Dieu peut, puis on redonne. Et le quatrième point, j'ai marqué, bon, je vais vous répéter mes points. Nous recevons en proportion de ce que nous donnons. Nous recevons en fonction de notre attitude et de nos motifs. Nous recevons dans le but de redonner. Et quatrièmement, nous recevons, mais nous ne sommes pas les seuls bénéficiaires. On donne, Dieu nous redonne, mais ce n'est pas juste nous qui reçoit. Et on va voir ça dans le verset 12 à 14. On voit qu'il y a une belle, il y a une synergie, il y a quelque chose de beau dans ça. Car le secours, verset 12, car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, donc ils ont pourvu aux besoins des chrétiens à Jérusalem, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, il glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Donc, voyez-vous que Paul, ici, élargit notre perspective. Oui, Dieu bénit celui qui donne. Mais le véritable impact va au-delà de ça. Bien, Le don pourvoit concrètement aux besoins des saints. C'est vraiment la libéralité chrétienne, c'est pas abstrait. La libéralité va nourrir, la libéralité va habiller, va soutenir financièrement, donc c'est concret. Les besoins sont comblés. Dieu est glorifié, deuxièmement. Paul dit que cette assistance devient une source abondante d'action de grâce envers Dieu. Ceux qui reçoivent ne disent pas « Wow, quelle générosité de la part des Corinthiens. Wow! » Non, ils disent « Gloire à Dieu! » Ils retournent la gloire au Seigneur. Puis, troisièmement, l'amour et la communion s'approfondissent dans le corps de Christ. Voyez-vous comment il y a quelque chose de beau? Le verset 14 dit « Il prie pour vous et qu'il vous aime à cause de la grâce de Dieu manifestée en vous. » Donc, donner produit des actions de grâce, produit de la prière, produit de l'unité, produit de l'amour et produit la gloire à Dieu. Quand je donne, je reçois, mais l'Église entière reçoit. Et vous savez, quand on donne, on reçoit aussi parce qu'il y a toujours plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Fait que juste de donner, déjà, on reçoit, ça fait du bien de donner. Mais il ne faut pas que ça devienne centré sur nous, puis sur « je me sens bien, je vais donner plus ». Puis je me sens, ça devient de l'orgueil, puis là, on tombe dans un autre piège. Mais il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, c'est un fait, ça aussi. Donc, donner, c'est plus qu'un simple transfert d'argent, c'est vraiment l'Église en action. Il y a quelque chose dans l'Église qui se passe, qui est beau, quand on donne selon ce qu'on a vu avec Paul, ce qu'il nous a dit. Les principes-là. Et je conclue, parce que là, je vois le temps avancer, je conclue rapidement. J'ai appelé ma conclusion la pointe de l'iceberg. Vous savez, l'iceberg, on voit le petit bout qui sort. Bien, tu sais, c'est gros peut-être, mais il y a encore beaucoup plus gros en dessous de l'eau. Hein? Bien, tout ce qu'on a vu depuis les derniers versets cette semaine, puis la dernière fois je suis venu, tu sais, l'amour, l'entraide, la libéralité, l'engagement à donner, l'intégrité, l'abondance de bénédictions. Toute cette dynamique-là du corps de Christ en action, c'est juste l'ombre d'un don infiniment plus grand. C'est juste la petite pointe de l'iceberg qui est fondée, qui est énergisée par cette grande vérité qu'on voit au verset 15. « Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. » Tout découle de Christ. Tout est basé, appuyé sur Christ. Je peux donner, je dois, je veux donner. Pourquoi? Parce que Christ s'est offert lui-même. Le mot merveilleux, hein, don merveilleux, ça ne rend pas bien le sens du mot. On devrait plutôt dire pour son don indescriptible. C'est ça que le mot veut dire. Parce que merveilleux, c'est merveilleux, mais tu sais, je vais voir des feux d'artifice, puis là, ça éclate, puis c'est « oh, wow, c'est merveilleux ». Puis il y a plein de choses de merveilleux, mais c'est plus profond comme mot, c'est indescriptible, qui défie toute description. C'est ça le don qu'on a en Jésus-Christ. Et on ne pourra jamais exprimer avec nos mots ce que Dieu fait pour nous en Christ. C'est incroyable. Allez lire Éphésiens, « En lui, nous avons... » Regardez tout ce qu'on a en Christ. Tout ce qu'on a acquis en lui dépasse de loin notre compréhension. Dieu nous a donné son Fils unique, avec joie, sans retenue. Il est allé, comme on l'a vu ce matin, jusqu'à la mort de la croix. Dieu ne l'a pas épargné. Hein, quand il était dans le jardin, y a-t-il une autre solution? Mais que ta volonté se fasse. Il n'y avait pas d'autre solution. Il est allé jusqu'au bout. Dieu ne l'a pas épargné, nous l'a donné. Sans retenue, puis ça dit dans Romains, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Mais tout ce qu'on a reçu en lui nous place dans une position où on n'a pas vraiment le choix de nous donner nous-mêmes en retour. On lui appartient. Tout de nous lui appartient. Puis on doit donner une partie aussi de nos biens, de ce qu'il nous donne à chaque semaine. Parce qu'il nous le demande, puis on le fait avec joie, puis on le fait sans retenue, parce que lui a déjà tout fait pour nous. Donc, voyez-vous toutes ces réactions en chaîne de la libéralité qu'on a vue, c'est seulement possible à cause du don merveilleux de Jésus-Christ. On l'aime pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. On donne pourquoi? Parce qu'il nous a tout donné en premier. Et vous savez, c'est très tentant de voler un peu de la gloire qui revient à Dieu hein, quand on fait un geste de libéralité. Des fois, on donne, puis on se sent bon d'avoir donné, puis on donne, puis on veut s'assurer que la personne sache que c'est moi qui l'ai donné. Puis, tu sais, des fois, on va même essayer de chercher un petit peu de gloire. Mais la gloire revient entièrement à Dieu. C'est lui le vrai moteur derrière tout ce qui se passe, derrière notre libéralité. Puis si Dieu nous a tout donné avec joie, sans retenue, mais soyons prêts aussi à donner tout avec joie, sans retenue. Je vais terminer par la prière. Seigneur, merci pour grand Dieu éternel, tu nous as donné ce que tu avais de plus cher. Et Père, on voit dans les Écritures que tu nous demandes de participer, d'aider, de donner une partie, que ce soit de notre temps. que ce soit de nos biens, de notre argent. Tu nous demandes, Seigneur, de le faire, mais avec il y a une manière de le faire, hein, avec joie, résolue dans notre cœur, sans retenue, sans tristesse. Et Seigneur, bien, on veut être obéissant à toi. Puis on sait, Père, que quand on donne, bien, tu vas prendre soin de nous. Tu vas prendre soin de nous. Puis merci de nous utiliser dans ton œuvre, qu'on peut participer à ton œuvre, à l'avancement ici de l'Église, l'édification de l'Église. On veut te remercier de nous utiliser, grand Dieu. Et merci de nous avoir donné le Seigneur Jésus, ton Fils. Et c'est en son nom qu'on te prie. Amen.